Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Jacob Rogozinski, bonjour.
Bonjour, Sange Chanaï, merci de m'avoir invité
à nouveau. C'est un plaisir, vous êtes un habitué de mon émission Strasbourg Pilote Arts et Lettres, n'est-ce pas? On s'était vu dernièrement, il y a 2 ans, je crois, pour Moïse, qui s'est très bien vendu.
Moïse l'insurgé. Aux éditions du Cerf, et oui, bon, il a eu un écho favorable. J'en suis très content, mais là, c'est un autre type de livre, là, maintenant.
Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de Inhospitalité, qui paraît aussi aux éditions du Cerf. Alors, vous présentez, est-ce nécessaire, mais je le fais quand même. Alors, professeur à la faculté de philosophie de Strasbourg, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur, notamment, Kant, Artaud, Derrida, et puis nous avons parlé de Moïse l'insurgé, toujours aux éditions du Cerf, un livre absolument passionnant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Inhospitalité. C'est un livre où vous vous interrogez avec vos connaissances de philosophe, c'est plein de références, c'est érudit. Vous vous interrogez dans ce livre sur l'inhospitalité croissante des nations occidentales. Alors, vous avez, à travers le prisme de la philosophie, psychanalyse, en passant par les auteurs, les grands philosophes Kant et Derrida, vous en appelez à une attention à ce phénomène qui nous interpelle, ces populations qui viennent de ces territoires d'où la sécheresse, la misère, la guerre, les chasses. Et ces gens-là, ces gens qui sont tout à fait estimables et respectables, ce sont des humains, essayent d'atteindre des territoires européens très mal reçus. On peut pas faire l'économie de la situation actuelle en Europe, des règlements climatiques, les guerres, tout ça. Donc c'est très difficile d'ouvrir ces territoires à d'autres misères. Et il semble que, vous l'avez dit dans votre livre, que ces migrants se dirigent de plus en plus vers les pays du Sud. Voilà, c'est une solution, mais très, très aléatoire et périlleuse pour combien sont morts dans leur trajet. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous avez organisé ce livre? Comment vous avez eu envie de l'écrire? Quelles sont les choses qui vous ont propulsé? Et le choix pour analyser ce phénomène à travers Derrida et son concept d'accueil absolu. Oui. Et Emmanuel Kant avec son idée de cosmopolis, la Terre pour ces vivants. La Terre, c'est comme un territoire pour la Terre entière, pour tous ceux qui vivent. Alors, je vous laisse maintenant, j'ai lancé quelques petites amorces.
Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer de serrer un petit peu ça. Qu'est-ce qui m'a incité à écrire ce livre? Ça, c'est une vraie question. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'on écrit un livre sur des sujets que d'autres plus compétents, déjà longuement travaillés. Je vais donner 2 réponses qui renvoient la dédicace et un des 2 exergues. La dédicace, j'ai dédié ce livre à mes parents. J'ai dit, Raphaël et Sarah Rogozinski, 2 immigrés, puisque mes parents sont venus en France, sont venus de Pologne. Ils sont venus juste après la Shoah, en 1945-1947. C'était 2 survivants du ghetto de Varsovie. Et ils ont été accueillis généreusement en France. Voilà, ça c'est un point très important à souligner. À ce moment-là, la France était hospitalière envers les réfugiés, les migrants, les survivants de la Shoah. Et voilà, grâce au droit du sol, je suis né français un peu, même avant que mes parents soient naturalisés. Ils ont été naturalisés, comme je le dis dans le livre, ils sont devenus passionnément français, voilà. Sans rien renier de leurs origines et du judaïsme, etc., ils sont devenus passionnément français, comme tant d'autres. Bon, donc, à ce moment-là, c'était possible. Et on dirait que maintenant, ce n'est plus possible. Il y a là quelque chose de très, très étrange et de problématique. Comme si ceux qui venaient avant étaient acceptables et ceux qui viennent maintenant ne sont plus acceptables. Pourquoi ? Là, il y a une vraie énigme que je voudrais poser.
Peut-être que la situation a changé. Les gens d'avant pouvaient s'assimiler plus facilement parce qu'il n'y avait pas tant d'écart au niveau économique, au niveau d'humanité. Là, il y a l'Europe avec toutes ces structures techniques, modernes et ces populations affranchies, émancipées dans la réflexion, de par les structures politiques. Ce sont des populations qui ne sont pas miscibles, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas le gap, le trou n'était pas tellement infranchissable.
Bon, au niveau de la situation économique, celle de la France en 45-47 n'était pas très bonne. Le pays était ravagé par la guerre, il y avait un énorme effort de reconstruction à faire. Et la France n'a pas hésité d'ailleurs à faire venir des centaines de milliers de travailleurs du Maghreb essentiellement, ou des Antilles, pour participer à la reconstruction. Donc la situation n'est pas pire maintenant qu'elle était à l'époque, au niveau du chômage, au niveau de l'économie. Alors le fossé dont vous parlez, oui, peut-être. Le problème, c'est qu'à intervalles réguliers, on dit cela des gens qui frappent à la porte. On dit non, ils ne sont pas assimilables. Bon, là, je suis né dans le Nord, à Roubaix, et il se trouve tout près de la frontière belge, et j'ai étudié un peu l'histoire du coin, il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, les ouvriers français à Roubaix manifestaient violemment au cri de « mort aux Belges ». Mort aux Belges. Parce qu'ils accusaient les travailleurs immigrés flamands d'importuner les femmes, de faire baisser les prix, de casser les grèves, etc. etc. Bon. Donc mort aux Belges. Aujourd'hui, on en rigole, quoi. Et au même moment, à la fin du 19e siècle, comme vous le savez, il y a eu des véritables pogroms contre les ouvriers italiens dans le sud de la France, avec des morts. Hein, là encore, bon, on disait, oui, voilà, les Italiens sont pas assimilables, ils viennent là, c'est des voyous, des mafieux, ils violent les filles, ils font baisser les salaires, etc., etc. Donc voilà, ça revient à intervalles réguliers. Dans les années 20-30, c'était les Juifs. Hein, les Juifs dans l'Europe centrale, où on disait, ouais, voilà, les Juifs, absolument inassimilables, étrangers à la civilisation chrétienne, à l'histoire de France, etc., etc. Bon, après, c'était les Arabes, et ainsi de suite. Je veux dire, à chaque fois, on dit, ces gens-là ne sont pas assimilables. Il y a un trop grand fossé. Puis le temps passe et ils sont assimilés. Je veux dire, ils sont intégrés dans la vie nationale. Le président d'un grand parti d'extrême droite est d'origine italienne. Enfin, c'est par ses grands-parents, je crois. Voilà, quelqu'un tout à fait assimilé à la nation française, comme nous autres juifs, nous l'avons été.
Oui, certains, oui, mais d'autres ne sont pas du tout assimilés et sont des freins à la politique d'accueil de façon plus apaisée, quoi.
Alors, si vous voulez, bon, il faut être très clair. Je ne dis pas dans mon livre qu'il faut accueillir toute la misère du monde, pour reprendre le fameux terme de Michel Rocard. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas abolir les frontières. Ça, je le dis à plusieurs reprises. Même lorsque j'évoque Emmanuel Kant, qui, très clairement, il se prononce pour ce qu'il appelle une société cosmopolitique, c'est-à-dire un droit des citoyens du monde qui serait supérieur au droit des nations. Mm-hmm. Ça, c'est tout à fait impressionnant pour l'époque. Il n'est peut-être pas le premier. Dans l'Antiquité, déjà, les stoïciens avaient parlé de la cosmopolis, c'est-à-dire la cité qui étendue à l'échelle du monde, la cité-monde. Bon, mais Kant reprend ça, et c'est très impressionnant, hein, l'idée qu'il y a un droit des citoyens du monde qui est supérieur au droit des nationaux. Et il dit, bon, l'idée d'une société cosmopolitique, une société des nations, c'est l'idée la plus sublime à laquelle on peut penser, parce qu'elle pourrait mettre fin à la guerre. Donc c'est des choses qui sont très très actuelles. Alors c'est dit, Kant précise bien qu'il ne faut pas abolir les frontières. Il dit l'idée d'un État unique, sans frontières, qui rassemblerait tout le monde, ça conduirait au pire despotisme, dit-il. Et moi je pense qu'il faut des frontières et qu'il faut des nations. Et bon, et donc, simplement, je suis très surpris par ce phénomène quand même très frappant, qu'il y a au fond très peu de migrants qui viennent en France. Hein, j'ai pris la peine de consulter les études les plus sérieuses, les études scientifiques de démographes comme François Errand du Collège de France, Hervé Lebras, des données incontestables. Et là, on s'aperçoit que le solde migratoire, c'est-à-dire l'excès de ceux qui restent sur ceux qui s'en vont, est minuscule. 65 000 par an. 65 000 par an. Bon, à peu près le tiers de la population de Strasbourg. Donc, il y a très peu de migrants, en fait. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, un grand nombre des migrants qui quittent leur pays parce qu'ils sont face à la sécheresse, à la guerre, à la misère, etc., et ils restent dans leur zone. Ils vont dans d'autres pays du Sud. C'est sans doute l'immense majorité, les trois quarts. Donc, ceux qui tentent le voyage difficile vers les pays du Nord, vers l'Europe, vers les États-Unis, sont une petite minorité. Donc, les faits sont là. Il y a très peu de migrants qui frappent à nos portes. Notamment en France, qui est un des pays d'Europe occidentale qui accueille le moins de migrants. On est très loin derrière l'Allemagne, qui avait accueilli 1 million de réfugiés en l'espace de quelques mois, il y a quelques années. Bon, et malgré cela, et c'est ça, ça fait partie des choses qui m'ont incité à écrire ce livre, malgré ça, quand on écoute le discours répandu par certains médias et certains partis politiques, nombreux, de plus en plus nombreux, alors on nous parle d'invasion migratoire, de submersion migratoire, de frontières passoires, on évoque un grand remplacement des Français de souche par des étrangers. Mmh. Alors quand on compare ça à la réalité des chiffres, on s'aperçoit que ça ne va pas, ça ne va pas. Donc quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, de l'hallucination, du délire, quelque chose qui c'est ça que j'ai voulu analyser.
Peut-être que c'est aussi parce que comme ça n'est pas absorbé, comme imaginer, essayons de visualiser la crue, les crues de pluie. Parce que comme la terre n'absorbe pas, tout reste en surface et les écoulements sont opérants. Alors, oui, à ce niveau, si on peut rapporter cette image au niveau des migrations, comme il n'y a pas de politique pour absorber beaucoup de ces migrants, tout reste visible en surface, dérangeant, entre guillemets, je ne parle pas pour moi, mais je parle au niveau de l'image. C'est peut-être pour ça que...
Oui,
comme il n'y a pas de structure accueillante.
C'est un problème politique. Voilà, c'est un problème politique. Voilà. Et il y a un manque de structure accueillante, c'est certain. Bon, l'Europe est capable d'accueillir des migrants. J'évoquais tout à l'heure l'Allemagne qui avait, grâce à Angela Merkel, a su accueillir 1 million de réfugiés et les intégrer. Apparemment, les 4/5e sont intégrés, parlent allemand, trouvent du travail. Bon, au moment où la guerre d'Ukraine a commencé, l'Europe a accueilli plusieurs millions de réfugiés ukrainiens. Bon, alors, c'est donc possible. Mais alors, il faudrait créer des institutions, il faudrait développer une véritable politique d'accueil pour favoriser l'intégration.
Oui.
Mais même de ce point de vue-là, même si on considère les gens de la première et la deuxième génération, le nombre de migrants et d'enfants de migrants qui sont en France actuellement ne dépasse pas 10%. 10%. Bon, on est très loin d'un grand remplacement, d'une grande invasion. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, qui est de l'ordre du délire, là, quelque part. On fantasme une invasion massive qui balayerait les Français dits de souche, mais qui est de souche. Qui peut dire qu'il est de souche, qu'il descend des Gaulois ou en ligne directe ou...
Jakub Rogozinski, vous avez parlé d'une notion intéressante à expliquer ce grand remplacement. C'est quoi exactement ? Il y a aussi vous avez analysé ce phénomène à travers la pensée de Derrida. Mmh. Quel est le secteur de la pensée qui semble être ciblé pour cette explication ? Et aussi, nous avons parlé de Emmanuel Kant.
Voilà. Oui, vous avez raison de revenir.
Alors, le grand remplacement...
Le remplacement, c'est simple, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce qu'il n'y a pas de remplacement. Il peut y avoir un remplacement lorsque 70, 80, 90%, disons la majorité de la population, soit directement d'origine étrangère. Or ici, au grand maximum, on atteint 10%.
Le grand remplacement, c'est ce qui arriverait après plusieurs dizaines d'années si le flot n'était pas endigué, quoi.
Mais oui, mais le flot est de 65 000, un sol migratoire de 65 000 par an.
Parce qu'il est contré.
Donc il faudra quelques siècles pour qu'il y ait un remplacement. Et puis bon, je veux dire, là-dessus, ce qui m'a encore guidé avant d'en venir à Derrida et Kant, là c'est l'exergue, il y a deux exergues dans mon livre, une de Georges Brassens et l'autre la Torah de Vayikra, Lévitique. Il y a cette phrase admirable, hein, qui est comme dans notre tradition, qui est un impératif, une mitzvah. Hein, lorsque, considère l'étranger qui réside chez toi comme s'il était né chez toi. Aime-le comme toi-même. Vous aussi, vous avez été étranger au pays d'Égypte. Je suis Hachem, votre Dieu. Bon, là, c'est quand même une phrase importante.
Mais qui s'adresse aux croyants, oui, aux juifs, etc. Une petite fraction de la population. Oui, ce n'est pas fondateur, c'est la Bible. Ça intéresse.
Pour nous, juifs, c'est fondateur.
Oui, mais nous ne sommes pas aux manettes de la France pour accueillir les migrants.
Oui, bon, mon introduction, je l'appelais, j'ai donné comme titre à l'introduction, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Alors là, pour le coup, c'est une citation de Jésus de Nazareth lui-même. Oui. Hein, c'est très beau passage, l'évangile de Matthieu, où il dit, bon, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et alors les bonnes âmes à qui s'adresse protestent en disant, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? Il dit, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, je pense que Jésus de Nazareth est vraiment dans la tradition de la Torah. Hein, je pense que c'est en tant que juif qu'il parle, là, en tant qu'il est fidèle à l'injonction d'aimer l'étranger comme soi-même. Donc bon, il ne s'agit pas d'être manette ou pas, il s'agit de savoir quelles sont nos valeurs. Je pense que les valeurs juives et chrétiennes sont des valeurs d'accueil et d'hospitalité de l'étranger. Et ceux qui, aujourd'hui, dans certains partis, évoquent les racines chrétiennes de l'Europe et proposent de rejeter les migrants à la mer, ceux-là trahissent leurs propres valeurs. Je dirais même qu'une démocratie qui choisit une politique d'inhospitalité renie ses propres valeurs et se met elle-même en danger. On pourra en reparler si vous voulez, parce que l'heure tourne et vous me questionnez sur Kant et Derrida.
Voilà. Et aussi, parler après, pourquoi associer l'idée d'hospitalité à l'idée de la paix, puisque Kant dit que pour accéder à une paix perpétuelle, traitons la terre comme la terre de tous ces vivants, une mère qui accueille tous ces vivants, et que c'est ça qui induirait la paix perpétuelle. Alors, comment articule-t-on l'hospitalité à la paix? Et ça, c'est aussi un segment intéressant.
C'est très important, hein, parce que l'hospitalité est un principe de pacification, parce que l'hospitalité est le contraire de la haine. Contrairement à ce qu'on croit, Kant n'est pas un utopiste, un moraliste abstrait, un rêveur. Il pose qu'il y a un mal radical, l'homme est radicalement mauvais par nature, dit-il, et donc le premier rapport à l'autre, c'est un rapport d'hostilité aux autres hommes, aux autres peuples. Il dit la seule manière qu'on a de dépasser cette hostilité naturelle qu'on a envers les autres peuples, envers les autres hommes, c'est d'aller chez eux, de les accueillir chez nous, parce qu'ainsi on apprend à les connaître et on désamorce cette attitude agressive qu'on a spontanément envers les autres.
On apaise.
Voilà, donc l'hospitalité, au sens strict, est un principe de pacification. Hein, elle est le contraire de la haine. Il faut déjà avoir surmonté le potentiel de haine qu'il y a en chacun de nous, la haine de l'autre, la haine de l'étranger, pour pouvoir accepter de l'accueillir. Alors, ce qui est intéressant chez Kant, c'est que là encore, c'est pas un utopiste. Il ne dit pas qu'il faut traiter l'étranger comme... Il ne dit pas
oui, alors un droit de visite, finalement. Il a parlé d'un droit de visite.
Oui,
parce qu'il a dit non, bien sûr, ils ne vont pas venir habiter l'être humain et citoyen du monde partout, mais il ne peut pas s'installer comme ça. Et il faut que chaque nation offre un droit de visite, et ça existe, et c'est pas ça qui va régler le problème.
En tout cas, bon, il ne dit pas qu'il faut abolir les frontières, mais il dit une chose importante que je mets en valeur, il dit que tout homme a autant de droits qu'aucun autre sur n'importe quelle portion de la terre. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire que, bon, pour le dire brutalement, personne n'est de souche.
Bien sûr.
Personne n'a un droit absolu, historique, inébranlable, sur la portion de terre où il vit. Nous vivons là où nous sommes par l'effet du hasard, hein, parce que nous sommes nés de ces parents-là, à ce moment-là, de cette histoire. Bon, mes parents, bon, si j'étais né avant la guerre, je serais né en Pologne. Si j'étais né pendant la guerre, je ne sais pas si je serais né, ce qui serait passé. Et puis voilà, bon, mes parents voulaient aller en Amérique, s'ils n'ont pas eu le visa, s'ils avaient eu le visa... je serais américain et je ne serais pas en train de vous parler ici, ou alors en anglais.
Bon, mais vous avez, je crois, une aile de la famille qui est aux États-Unis, non?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui, j'en parle à un moment donné. C'est un bel exemple de pays hospitalier qui est aujourd'hui de nouveau travaillé par les démons de la xénophobie, hein, avec cette obsession de créer un grand mur à la frontière du Mexique pour bloquer les migrants.
C'est le protectionnisme. Le monde est en train de craquer par tous les niveaux, par le climat, par les guerres, par la drogue, par le manque de respect l'un de l'autre, par le fait de survivre soi-même. Il y a l'instinct de survivre qui veut survivre par son travail, par son invention, par sa rapine, par la drogue. Il y a cherché un orifice de d'oxygène, quel qu'il soit. La Terre est en ébullition pour ça.
Oui, mais
grande douleur.
C'est précisément parce que la Terre est... Ça, c'est une des leçons de Kant. Hein, parce que la Terre est finie, qu'elle est limitée, c'est dit-il, ça. Que nous devons la partager, que nous devons nous tolérer les uns les autres.
Il n'y a pas d'autre recours.
Au lieu de nous combattre les uns les autres. Voilà. Donc le projet de paix perpétuelle qu'il développe, ce n'est pas du tout utopique. Ça renvoie aux conditions de l'existence sur la Terre, c'est-à-dire sur une surface finie. Et donc, bon, c'est l'hospitalité ou la mort.
Enfin, voilà. L'issue de secours.
Ou la guerre, et même il parle de une guerre d'extermination qui anéantirait totalement l'humanité.
Et
l'alternative à la guerre, c'est l'hospitalité.
Voilà. Et la Terre serait donc le grand cimetière paisible.
Tout à fait. Le grand cimetière du genre humain. Ouais. Parce que, bon, c'était visionnaire. Il y a 2 siècles dire ça. Il ne connaissait pas encore la bombe atomique. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sait que réellement, on peut anéantir toute vie sur la Terre. Mm-hmm. C'est possible. Alors, est-ce que l'accueil suffit à empêcher la guerre? Bon, c'est peut-être un peu discutable, mais c'est une condition.
La bonne volonté.
Voilà. C'est une condition, la condition d'accueillir l'autre. Ou comme dit Kant, c'est très important, ce qu'il appelle l'hospitalité, c'est le fait de ne pas considérer l'autre a priori comme un ennemi. Très important. L'autre n'est pas forcément menaçant, forcément dangereux. Il y a une manière de considérer que tous ceux qui viennent sont un danger pour notre paix, notre prospérité, notre sécurité, notre économie, etc. C'est cela qu'il faut tenter de critiquer. C'est ça que j'essaie de critiquer. L'autre n'est ni bon ni mauvais en soi. Il faut le traiter selon la manière dont il se comporte. Mmh. Si ceux qui viennent commencent à poser des bombes partout, on agit en conséquence. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'être absolument hospitalier face à des gens qui viendraient détruire notre civilisation. Mmh. Mais il faut les juger sur pièce, au cas par cas. Et c'est ça que dit Kant. Il ne faut pas considérer a priori l'autre, l'arrivant, comme un ennemi. Et c'est sur ce point que je trouve que Kant a plus raison que Derrida.
Derrida, que dit-il?
Alors voilà, moi j'ai un immense respect pour Derrida. Hein. C'est un de mes maîtres, c'est un grand penseur de très grande envergure. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je l'ai connu personnellement. J'ai même écrit un petit livre quand il est mort, parce que j'étais bouleversé par sa mort, il y a une dizaine d'années. Enfin, j'ai écrit Crypte de Derrida. On en reparlera peut-être un autre jour, mais j'essaie de défendre certains aspects de sa pensée, notamment cette notion de déconstruction qu'il a mise en avant et qui aujourd'hui défigurée, travestie, puisqu'on fait comme si c'était une destruction pure et simple, alors que ce n'est pas ça du tout.
Alors c'est quoi la destruction ?
La déconstruction.
La déconstruction, pardon.
Si vous voulez, c'est essayer d'arracher un concept ou une idée à une tradition qui la recouvre et la dissimule. Ainsi, dit-il, c'est désédimenter. C'est essayer de découvrir les possibilités cachées que porte une idée ou un phénomène.
Sortir le minéraux de sa gangue de terre.
On pourrait dire ça comme ça. Le problème de Derrida, c'est que, avec l'immense respect que j'ai pour lui, il a traité l'action d'hospitalité un des premiers, après Kant. Mais Kant, c'était il y a 2 siècles. Hein. Et Derrida, dès les années 95-96, à ce moment-là, il y avait les circulaires Pasqua. Et la première apparition de... tentative visant à restreindre, à freiner, à contrôler l'immigration. Bon. Il a réagi au quart de tour, il a fait une série de déclarations et il a commencé un séminaire qui vient d'être publié aux éditions du Seuil, 2 tomes, Hospitalité. Il a essayé en tant que philosophe de s'interroger sur cette question. Donc il a ouvert un dossier qui avait été refermé depuis Kant. Alors le problème, c'est que je trouve que Derrida apporte des mauvaises réponses à cette question. Il a pour des raisons qu'on pourrait creuser, mais il faudrait du temps, hein. Il estime
accueil absolu.
Absolu ou, comme il dit, inconditionnel.
Inconditionnel.
Voilà. Il faut accueillir de manière inconditionnelle celui qui vient.
C'est une aporie.
Moi, je pense que c'est très, très problématique.
Une aporie, c'est-à-dire une impossibilité.
Une impasse.
Parce que si c'est accueillir de façon inconditionnelle, il y a une condition, c'est d'accueillir d'une façon inconditionnelle.
Alors, contrairement à Kant, qui lui demande simplement qu'on ne traite pas celui qui vient a priori comme dangereux ou ennemi, mais qu'on le juge au cas par cas selon ses actes. Bon, Derrida, il dit qu'il faut poser aucune condition, accueillir absolument celui qui se présente, sans même lui demander son nom, d'où il vient, ce qu'il veut, etc. Et il parle de l'accueil hospitalier, ça c'est très important, comme d'un événement messianique.
Messianique, eh ben oui.
Alors ça c'est, bon, Derrida est un penseur juif, hein, de grande envergure, il a beaucoup parlé de la messianicité, ce qu'il appelle un messianisme sans messie, bon, c'est important dans sa pensée, mais là ça me pose problème. Parce qu'on demande énormément à celui qui arrive. Quand on dit « je t'accueille comme si tu étais le Messie », on lui demande trop. Et que se passe-t-il, la question que je pose dans le livre, que se passe-t-il si celui qui arrive n'est pas le Messie ? Ce qui est comme un peu le cas de
beaucoup
qui se présente quand même. Hein. Qui peut se vanter d'être le Messie
bon. Et ensuite, comme c'est douloureux d'être chez quelqu'un de ta façon totale, sans avoir d'être vraiment l'étranger qui rentre de façon absolue dans un intérieur, il ne peut rien rembourser, donc il est vraiment aliéné par cet accueil absolu. C'est un piège, finalement.
Disons que je pense qu'il faut essayer d'éviter d'idéaliser ceux qui arrivent, mais il faut éviter de les démoniser, les diaboliser. Hein, il y a tout un pan de l'opinion à droite et à l'extrême droite qui diabolise les migrants, comme si c'était tous forcément des violeurs, des tueurs, des terroristes, etc. Non, c'est non. Mais renverser cela en disant c'est le Messie qui arrive, il faut l'accueillir sans condition, ça ne va pas non plus. C'est l'inversion simple de la position xénophobe. Donc je pense qu'il faut développer des institutions d'accueil, voilà, avec des procédures et des règles définies dans un débat public qui puisse permettre d'accueillir de manière hospitalière. Voilà. Et pour ça, ça implique de déconstruire, pourquoi pas, voilà, reprenons ce terme.
Et l'idée de nation, vous avez travaillé dessus, ou nous avons le temps encore, c'est une notion très importante, la nation, l'étymologie, nacere, naître, nature, donc dérivée à partir de cette racine, nature, naturalisation, ça vient de naître. Alors le droit au sol, c'est quoi ? Et alors, vous faites la déconstruction à partir du schéma de Derrida.
Oui, disons, à partir de sa méthode, c'est-à-dire essayer de montrer que la nation, c'est quelque chose de complexe. On croit savoir ce que c'est, et en même temps, c'est plus complexe que ça. Là, bon, je reviens encore à l'exemple de mes parents. Hein. Bon, et voilà, ils sont arrivés en 45-47 en France, et je m'étais accueilli de manière incroyablement hospitalière. Bon, si j'étais venu, mettons 10 ans plus tôt, laissons de côté la peur de
mais
Vichy.
Il y avait l'énorme culpabilité européenne par rapport à la Shoah.
Certainement.
Le monde savait ce qui se passait dans les camps, aussi bien les États-Unis, la Grande-Bretagne, oui, etc. Ils ne savaient pas comment faire pour éponger leur misère.
Ça a dû jouer.
Leur misère à eux.
Voilà. Ça a certainement joué.
Bah, évidemment.
Voilà. Mais 10 ans plus tôt, ils n'auraient pas été accueillis de manière hospitalière. Ben, à l'époque, on freinait à mort l'arrivée des migrants venant de l'Est, et notamment des Juifs. Il y avait un fort antisémitisme. Voilà. Donc la nation, c'est les deux. Elle est ambiguë, elle est ambivalente. Elle peut être à la fois hospitalière et inhospitalière. Les États-Unis, bon, c'est à la fois le pays qui a accueilli le plus grand nombre de migrants du monde, qui s'est bâti sur l'immigration. Et c'est aussi le pays où Donald Trump peut construire un mur pour bloquer la frontière sud, etc. Quoi. La nation est donc ambivalente, ambiguë.
Les États-Unis avaient besoin de population pour peupler leurs immenses territoires. Ils ont fait feu de tout bois. Donc ça aussi, quand on voit des actions qui semblent être très vertueuses, il faut voir quels sont les feux pervertis qui les soutiennent.
Oui, bien sûr, mais à la limite, je dirais peu importe, du moment que les gens sont accueillis.
Voilà.
C'est ça qui compte.
Ça, c'est vrai.
Donc, si vous voulez, la nation, bon, quand je dis déconstruire la nation, ça ne veut surtout pas dire la détruire. Ça veut dire essayer d'interroger ce que ça signifie, le mot nation.
Oui.
Or, le mot nation, ça, j'ai découvert ça en préparant ce livre, est un mot extrêmement récent. L'idée que parler de la nation française, ben, ça apparaît au XVIIIe siècle.
Mm-hmm.
C'est quelque chose de très, très récent. C'est lié à la Révolution française aussi, qui a fait de la nation le principe de la souveraineté. Et donc, bon, c'est un sens tout à fait ambivalent. Je veux dire, bon, pendant la guerre, les résistants et les collabos, les démocrates et les pro-nazis, ils se combattaient tous les deux au nom de la nation française.
Voilà.
Simplement, ils n'avaient pas la même conception, ils n'avaient pas la même idée de la nation. Du côté des collabos et des nazis, il y avait l'idée que la nation a une base ethnique. Hein, que la nation, et là on revient à l'idée de
le
nature,
dénominateur
de
copain,
nature,
c'est
de nature.
Oui.
C'est on partage un même sang, profondément. Alors là, effectivement, si la nation se fonde sur une base ethnique, tous ceux qui viennent sont forcément des corps étrangers qu'il faut rejeter. Des corps forcément en soi inassimilables. Bon. Alors que la conception qui guidait, à mon avis, les résistants, elle remonte à la Révolution française, elle était qui a été au départ profondément hospitalière. J'en parle dans mon livre de manière très impressionnante, avant de bon, ça se bloque un peu au moment de la terreur. Mais bon, moi, je pense que celui qui a le mieux résumé l'idée française, l'idée républicaine de nation, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié, c'est Ernest Renan, un penseur du 19e siècle qui a écrit ce... En 1882, il a fait une conférence « Qu'est-ce que la nation ?» Et il définit la nation, il dit « La nation ne se définit pas par la race, elle ne se définit pas par la langue, ni par la géographie, elle se définit par la volonté. La nation, c'est le désir d'être ensemble et de continuer à vivre ensemble. » C'est pour ça qu'il en parle comme d'un plébiscite de tous les jours, une sorte de référendum quotidien. Voilà. Donc je pense qu'il faut partir de là. Hein, ceux qui veulent devenir français, qu'on leur accorde le droit, la possibilité de devenir français. Alors s'ils ne veulent pas, bon, ben, c'est leur droit qu'ils ne le soient pas. Mais ceux qui veulent le devenir, qu'on les accueille. Ainsi, on sera fidèle à l'idée républicaine de nation, et on sera aussi fidèle, d'une certaine façon, à cet impératif qui nous a été légué par notre tradition. Hein, c'est l'étranger qui vient chez toi, traite-le comme s'il était né chez toi. Mmh. Aime-le comme toi-même, vous aussi vous avez été étranger. Tous les hommes ont été étrangers d'une manière ou d'une autre. Tous les hommes sont, d'une certaine façon, étrangers sur la terre. Je reste persuadé qu'une démocratie qui développe la xénophobie, qui se montre radicalement inhospitalière, et c'est une pente très forte aujourd'hui en Occident. Hein, bon, le gouvernement italien, le nouveau gouvernement néerlandais, la montée de l'extrême droite dans tous les pays occidentaux, le trumpisme, on voit très bien. Eh bien, je pense qu'une démocratie qui refuse d'accueillir, une démocratie emmurée, inhospitalière, se renie elle-même et se met en danger. Parce que les mesures de contrôle, de surveillance qui sont prises pour refouler les clandestins, les sans-papiers, etc., elles peuvent très facilement s'étendre et se retourner contre, par exemple, des minorités nationales ou des opposants. Bon, repensons à Pétain, la collaboration. Au début, des mesures ont été prises contre les juifs étrangers. Hein, les juifs étrangers, bon, alors voilà, ok, ceux qui étaient venus, qui n'avaient pas les papiers, qui n'étaient pas naturalisés. Puis très vite, les mêmes mesures ont été étendues aux juifs français. Voilà, ça s'étend très vite. Dès le moment où on commence à soupçonner une partie de la population qui vit sur le territoire de ne pas être des vrais nationaux, de ne pas être des vrais Français de souche, ça peut aller, et qu'on commence à les contrôler, à les surveiller, éventuellement à les enfermer ou les expulser, ça peut s'étendre très vite. Donc il faut que la démocratie se défende aussi contre ce poison qu'elle porte en elle-même, contre le poison de la xénophobie. Et là, bon, là, c'est un point que j'essaie de développer longuement. Ça renvoie à la conception du social comme un corps. C'est-à-dire, tant qu'on considère la société ou la nation comme un grand corps, il y a un problème. Parce qu'un corps a des frontières. Une frontière tout à fait évidente, qui est la frontière de la peau. Hein, c'est ça que je dis dans mon livre, que la peau est l'archi-frontière. Bon. Et c'est certain que, bon, même s'il y a une pratique des greffes qui est extrêmement intéressante, maintenant on sait qu'on peut greffer, on peut me greffer le cœur ou les reins ou le foie ou la moelle de quelqu'un d'autre. Un jour peut-être le cerveau, ce sera un peu plus problématique, mais bon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais le visage, on greffe des visages maintenant. Bon, hein, donc on sait que le corps peut accueillir des organes extérieurs. Mais ça, c'est une avancée toute récente de la science. Dans la représentation que les hommes se font de leur corps, il y a l'idée que mon corps m'appartient, et que les organes étrangers, tout ce qui vient du dehors, ne pourra jamais être intégré dans mon corps. Donc voilà, je pense que l'inhospitalité, la xénophobie, le racisme s'enracinent dans le rapport que les hommes ont par rapport à leur propre corps, par rapport à leur propre peau. Hein, on a peur que quelque chose d'étranger me pénètre dans le corps et me détruise. La panique du virus, voilà, c'est la panique du virus, du corps étranger. Et ça, projeté sur le plan collectif, ça donne le racisme, la xénophobie, l'inhospitalité. Et ce sont donc des fantasmes, et ces fantasmes, il faut essayer d'en guérir.
Jacob Rogozinski, je vous remercie beaucoup pour ces explications précieuses et très claires autour du livre que vous venez de faire paraître aux éditions du CERF, Inhospitalité. Alors, c'est passionnant, il faut le lire et c'est un livre important. Je vous remercie et à très vite,
c'est
j'espère.
C'est moi qui vous remercie, Solange Touchana. Et je vais me planter un dernier mot, vous avez conscience donc que c'est un livre érudit. Je tiens à rassurer les auditeurs, c'est un livre court, pas comme Moïse qui était un pavé. C'est un livre court que j'ai essayé de rendre le plus clair possible. C'est un livre qui vise un grand public parce que c'est une question qui concerne tout le monde.
Mais il y a, on parle d'auteurs importants avec des références, des explications. On sort un peu plus cultivé à la fin de cette lecture.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.